Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir, et voici un dimanche qui s'achève. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Êtes-vous resté au chaud, à vous prélasser chez vous, dans votre intérieur? Avez-vous exploré les chemins de terre de votre quartier, de votre département, histoire de vous oxygéner un petit peu? Vous êtes-vous remis tranquillement, patiemment, de cette énorme gueule de bois suite à vos extravagances de la veille? Avez-vous exploré un corps, des corps que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez sous le bout des doigts depuis longtemps déjà? Bref, quel a été votre programme en ce dimanche? En tout cas, maintenant, il vous reste une heure à profiter. Une heure pendant laquelle nous allons vous emmener voyager. Après 1h30 de métal de tout poil et on salue très chaleureusement nos métalleux préférés, il est désormais temps de se mettre tous à poil sur Canal B. Bonjour, émission 147, c'est parti.
Bonjour.
Sur Canal B. Une fois n'est pas coutume, c'est Benjamin Bechler qui va démarrer l'émission. Eh oui, allez hop, à table! Voici un nouvel extrait de Mangez-moi, d'Agnès de Sarthe, publié aux éditions du Point. À vous, mon cher Benjamin, régalez-nous. Oh.
Comment se fait-il que l'on ait plusieurs vies? Peut-être ai-je tendance à généraliser. Peut-être suis-je la seule à éprouver ce sentiment. Je ne mourrai qu'une fois, et pourtant, au cours du temps qui m'aura été imparti, j'aurai vécu une série d'existences contiguës et distinctes. Je n'étais pas la même personne à 30 ans. J'étais un être tout à fait particulier à 8 ans. Je considère mon adolescence comme autonome en regard de la suite. La femme que je suis aujourd'hui est déracinée, détachée, incompréhensiblement solitaire. Je fus très entouré, je fus très sociable, je fus timide, je fus réservé, je fus raisonnable, je fus folle. Il est minuit moins le quart et je me fais couler un tout petit bain dans mon évier géant. Il n'y a que les nourrissons que l'on baigne au lavabo. Les nourrissons et moi. J'obstrue la bonde et laisse le niveau d'eau tiède monter jusqu'à 20 cm du fond. Il reste 30 cm jusqu'au bord. Je grimpe sur le plan de travail. Le rideau de fer est baissé. Je suis nu, debout sur ma paillasse et je voudrais que quelqu'un me voie parce que c'est une situation insolite qui mérite son public. Je m'assieds, le dos contre l'inox lisse et ça ne déborde pas. J'apprécie la précision arithmétique de l'affaire. Incapable de calculer, j'ai agi au jugé et je ne me suis pas trompé. Afin d'occuper moins d'espace, je passe mes bras sous mes genoux repliés. Je me retrouve à peu de choses près dans la posture dite du corbeau. À l'époque du Santo Salto, je m'échauffais avec les artistes. Nous pratiquions un genre de yoga, des étirements, des appuis. Mes membres, qui n'avaient jamais été soumis à la moindre discipline, craquaient. Mes muscles tremblaient. Mais je ne me décourageais pas et personne ne se moquait. Nous étions tous plus ou moins des repris de justice, des égarés, et aucun de nous n'aurait songé à s'étonner du comportement de ses compagnons. Nous n'avions d'autre choix que de nous tolérer. C'était un monde dans le monde, ignorant les règles qui régissaient le reste de la société, indifférent à ses conventions. On pouvait devenir mère à 14 ans ou à 48, rester célibataire ou avoir 3 maris. On pouvait être la tante des enfants que l'on élevait et passer des fourneaux à la caisse, ce qui n'empêchait personne de bichonner les chevaux ou de changer les gamelles des chiens. Nos animaux étaient supérieurement intelligents. Nous aimions accueillir les espèces les plus diverses et nous ne pensions pas que les tigres faisaient un numéro plus intéressant que les chiens ou les chats. La frontière séparant le domestique du sauvage était floue. Sans cesse, nous l'effacions. nous autorisant à être sauvages, croyant ferme qu'il était en notre pouvoir de domestiquer la plus farouche créature. Personne ne parlait, tout le monde criait. Nous faisions très peu usage des verbes et des adjectifs. Nous préférions les prénoms, les surnoms et les onomatopées. Hop, tac, bravo. Une demi-heure avant d'entrer en piste, nous étions semblables à des phasmes, immobiles, en alerte, fondus dans les filins, les baguettes, les gaules, les filets, les barres, identiques à nos accessoires, camouflés. Nos bêtes étaient silencieuses et les regards s'échangeaient jusqu'à l'épuisement. Regards d'hommes et de chiens, regards de biquettes et de jeunes filles, regards de reptiles et de femmes. C'était un monde froid mais pas glacé. Nous avions trop peu de temps pour les sentiments, mais le contact palliait ce manque. Il y avait toujours une main dans votre dos, sur votre épaule, sous votre coude, une plante de pied sur l'intérieur de la cuisse, un crâne sur le ventre, un genou au creux de l'aine. Nous dessinions un Kamasutra collectif étrangement dénué d'érotisme. La peau est une plateforme, une forme plate, comme la terre, c'est-à-dire ronde aussi, et refermée sur elle-même et tissée d'interdépendance. On met longtemps à comprendre sa propre peau, ce paradoxe d'être surface et enveloppe, de n'être qu'une et multiple. La peau du pied, la peau du cou, la peau du menton, la peau du sexe, la peau sur les côtes, un seul et même organe se tenant constamment informé. Je croyais connaître ma peau, mais un jour, une main posée sur ma nuque, une main inattendue, ou devrais-je dire inespérée, me fit comprendre que je me trompais. Tout restait à découvrir. C'était avant Santo Salto, et c'était une longue histoire qu'il faudra bien que je raconte, mais pour l'instant j'en suis à la peau qui, comme les animaux sauvages avec lesquels nous vivions, se domestique et s'apprivoise. La première semaine au cirque, j'étais électrisé par les étreintes constantes. Cette chaleur échangée, prise à l'autre, revendue, échappée, capturée à nouveau. Pour m'expliquer ce qu'il attendait de moi, le directeur du cirque, que tout le monde appelait patron, avait posé les deux mains sur mes épaules et m'avait regardé dans les yeux. Je ne voyais pas la nécessité d'une telle emphase, il n'était question que de quantité de viande et de féculents, d'apport en légumes et de restrictions sur les épices. Ce n'est que plus tard, au bout de quelques jours, un flacon de piment de Cayenne dans la main, que je perçus le sens de l'accolade. C'était une façon d'imprimer les paroles, physiquement, dans la peau. Car ce que l'on disait, c'était une fois pour toutes. Si je ne m'étais pas rappelé le poids des mains du patron sur mes épaules au moment de verser le piment, j'en aurais sans doute trop mis. Le plat aurait été renvoyé en cuisine et j'aurais été viré. Je ne pouvais pas me le permettre. Je n'avais pas d'argent, pas de maison et plus le moindre cadre. Si j'avais quitté le cirque, j'aurais eu trop de facilité à me dissoudre dans la ville, à disparaître. Car on m'avait renié, car on ne voulait plus me voir. Personne, ni ma famille, ni mes amis. J'étais devenu une si mauvaise fréquentation que la fugue, l'éparpillement, la mort seraient passés inaperçus.
Sur Canal B. Alors après cette introduction gastronomique, et exceptionnellement ce soir, je vais vous demander d'écouter l'émission les plus vêtues possibles. Voilà, oui, allez-y, ouvrez vos placards, ouvrez votre commode, sortez tout de vos tiroirs et ajoutez-vous des couches, des sous-couches, des surcouches. Allez-y le plus possible. Voilà, encore une, si possible. Voilà, ça y est, vous y êtes. Et je rigole pas, hein. Sinon, je continue pas l'émission, en fait. Bon, parfait, merci. Vous avez chaud? Bah écoutez, soyez un petit peu patient, d'accord? Maintenant, fermez les yeux et laissez-vous guider. Nous voici place Sainte-Anne à Rennes. Nous sommes samedi. Oui, alors un petit peu d'imagination s'il vous plaît, d'accord? Et nous nous dirigeons vers le couvent des Jacobins. Le manège tourne sur votre gauche, mais vous, vous continuez votre chemin tout droit. Il est bientôt 13h et il y a du monde dans les cafés. Nous laissons le couvent sur notre droite et nous allons prendre la première rue à gauche, voilà. Puis on tourne à droite, tout de suite, au portail métallique. Levez les yeux, la salle de la cité se dresse devant vous. Ce bâtiment historique du patrimoine culturel et politique rennais, construit en 1925 à la suite du mouvement ouvrier du 19e siècle. Ce lieu, berceau des contestations politiques, des transmusicales, cette maison du peuple. Nous ouvrons la lourde porte Bordeaux et entrons. Après le sas d'entrée multicolore, et nous voici dans le noir le plus complet. Vous avez vraiment chaud ? Je sais. Mais acceptez de vous laisser guider. Acceptez de lâcher prise. Vous allez bientôt vous dévêtir. Vous allez bientôt apprendre à sortir de vos carcans. Vous allez bientôt décoller fièrement cette étiquette qui vous colle à la peau. Vous allez laisser votre corps prendre le lead. Exit le cerveau. Salut le langage corporel assumé. Petit déhanché. Bras écartés, menton relevé et regard droit. Strass sur les vêtements et paillettes dans les yeux. Amusez-vous et regagnez confiance en vous-même. Nous voici dans l'univers de l'effeuillage burlesque. Et c'est l'association Burlesque et Vilaine, en pleine préparation du cabaret de ce soir, qui nous accueille. Allez, on y va. J'entends des voix par là. Prenez ma main, je vous guide.
Préparatif lumière avant la répétition générale, ouais, qui commence à 14h.
Ok, cool.
Donc voilà, on a des artistes qui arrivent un peu au compte-gouttes là. Et...
C'est des artistes, c'est pas toujours les mêmes, c'est ça ?
Non, ouais, dans chaque cabaret, on essaie de faire venir des artistes différents et différentes. Là aujourd'hui, on a des artistes qui nous viennent, on a deux personnes de Rennes, qui sont les deux, qui sont là-bas d'ailleurs.
Ok.
On a aussi des personnes qui viennent de Nantes, notamment Lydie qui est de l'association Burlesque Freaky Follies avec qui on a collaboré plusieurs fois. Et aussi deux artistes qui viennent des popines du cabaret Revue et Corrigé de Cholet.
D'accord.
Donc voilà, on travaille, on a des synergies entre assos. Et après, en fait, en fonction de ce qu'on veut avoir sur scène, on aime bien avoir des choses très diverses, donc avoir des artistes avec des univers assez. Avec des identités assez, assez marquées. Donc on tourne comme ça, voilà. Même maîtresse de cérémonie, là, pour moi, c'est la première où je fais sur grande scène, parce qu'avec Maureen, on fait les petites scènes, parce qu'on a aussi un format scène ouverte qui s'appelle le cabaret des petites vilaines et des petits vilains, qui est dans un bar à Rennes. Voilà, c'est dans un bar, on a 80 personnes maximum. Donc puis c'est scène ouverte, donc c'est aussi plus accessible pour des débutants qui veulent s'essayer sur scène.
Ouais.
Et puis c'est une bonne façon pour nous d'identifier aussi des artistes qui plus tard peuvent aller sur scène quand ils sont un peu plus confirmés.
Et en quoi ça consiste alors d'être maîtresse de cérémonie ?
Ben c'est la personne qui présente en fait.
Ok, c'est donc, un peu monsieur ou madame loyal.
Exactement, voilà, c'est dans cette tradition-là. Et donc c'est toujours quand même, c'est un peu le show aussi, tu vois.
Ouais.
Enfin, la personne quand même, voilà, essaie de surprendre son public. Enfin moi j'ai plusieurs tenues, voilà.
Ok.
Et donc, en fait, il y a une équipe sur scène qui ne performe pas. Donc, il y a la maîtresse de cérémonie, ce qu'on appelle les stage kittens.
Ouais.
Donc, ce
sont
les chatons de la scène, en fait. Alors, nous, chez nous, on les appelle les diablotines. C'est les personnes qui vont venir ramasser, en fait, les affaires qui sont laissées sur scène.
Okay.
Pour pas que ce soit l'artiste qui vienne ramasser sa culotte. Voilà. Et donc, on en a trois. Généralement, on en a sur des gros cabarets, elles sont trois. Oui, ils sont trois. Et voilà. Et là aussi, c'est une bonne façon... pour des personnes qui n'ont pas encore fait de scène, bah de commencer par être stage kitten et puis après, comme ça, ils expérimentent parce qu'il y a un jeu entre le public et les artistes parce que c'est quand même interactif comme spectacle. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'aller crier, siffler. Il faut, hein, les artistes ont besoin de ça, en fait.
Ouais.
Et c'est le jeu du cabaret burlesque et de l'effeuillage burlesque, c'est-à-dire qu'on va venir un petit peu enlever quelque chose et on attend que le public réagisse.
Et
pareil avec la maîtresse de cérémonie, avec les kittens, il y a un jeu qui est différent, mais il y a ce jeu-là entre le public et la scène, et c'est plutôt cool en fait.
Ouais, c'est bon. Et pourquoi des stage kittens ? Ça vient d'où, tu sais ?
Le nom, ouais, je pense que ça vient des premiers cabarets... Pourquoi ? Je sais pas. Alors, je crois que historiquement, elles avaient les oreilles de chat, en fait.
Dans
beaucoup de scènes, comme c'est kitten, vraiment, il y a cette esthétique du chaton,
du
en fait, ou de la chatte, enfin, hein, un peu quelque chose de féline. Après, chaque cabaret a sa spécificité. Par exemple, je sais qu'au Sacré Burlesque Festival, Sacré Burlesque à Strasbourg, comme ils sont dans une région de Champagne et que l'organisatrice, son nom de scène, c'est Champagne Mademoiselle, il y a des petites thématiques champagne, bulles. Et l'asso, quand elle a commencé, a voulu avoir une identité sur ses stage kittens. Donc, c'était plutôt les diablotines. Donc, en fait, elles ont des petites cornes plutôt que des oreilles de chat.
D'accord. Très bien.
Mais comme on a des thèmes, un peu, on essaie d'avoir un thème sur chaque cabaret, surtout pour justement ça, parce que les artistes, après, ne vont pas forcément s'adapter au thème. Mm. Là, c'est des petites diablotines d'hiver. Donc, elles auront des moumoutes sur les oreilles. Elles sont dans des couleurs plutôt blanc, plutôt vert, plutôt Noël. Mais avec, en gardant cette identité, parce que c'est bien d'avoir aussi une identité d'assaut, avoir sa petite patte. Voilà. Moi, de l'effeuillage burlesque, ça fait un peu plus d'un an où j'ai rejoint l'assaut en tant qu'élève. Et après, je me suis mis à fond dedans, en fait. Et du coup, j'ai présenté mes premiers solos. Après, j'ai commencé le drag en parallèle. Donc, je fais aussi des performances de drag en dehors de l'assaut burlesque. Après, je fais quasiment tout le temps de l'effeuillage parce que j'adore ça. Mais... Et du coup, en fait, je me suis beaucoup investi dans l'asso et puis je suis devenu coprésident cette année. Voilà. Et là, j'étais dans la responsabilité de l'organisation du cabaret. Donc, beaucoup de travail d'organiser et de présenter.
Bah, j'imagine.
Mais on est plusieurs hommes dans l'asso, donc ça, c'est cool aussi parce que je pense qu'on a souvent l'impression que c'est... majoritairement, de toute façon, c'est des femmes, mais c'est vrai qu'on a des effeuilleurs aussi. Donc, notre trésorier aussi s'effeuille. Voilà. Et après, début du spectacle, 19h30.
Ouais.
Voilà.
Et on vous et on y va.
Et alors, c'est quoi le début du spectacle, tu me disais au téléphone
oui.
hier?
Parce qu'en fait, du coup, vu que toi, tu es débutante dans le public burlesque,
tout à fait.
En fait, on est sur des spectacles participatifs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le public est amené à réagir.
Oui.
Et donc, l'idée, c'est que... On explique au public qu'il peut applaudir, évidemment, et aussi quand on lui montre un petit bout de peau. Il peut, alors moi je dis wouwouter, mais après il peut juste crier,
siffler,
faire des wouhou, et donc exprimer le fait qu'il est content de voir qu'on montre un peu de notre chair. Et en fait, l'idée c'est que vraiment que l'artiste ressente que le public a envie que le numéro continue, et c'est tout l'idée du teasing de on y va, on joue avec le public avant de. C'est feuillé.
Et d'où ça vient, en fait, les feuillages? Comment c'est né?
Alors, en fait, les feuillages, c'est l'ancêtre du striptease.
Ouais.
À la base, c'était... Alors, j'ai pas les dates, j'ai pas fait mes petites révisions. Mais du coup, c'est surtout à l'époque où... c'était aux États-Unis. Donc, dans les boîtes de striptease, l'idée, c'était de faire des numéros. Mais en fait, il y a eu plein de... Il y a eu plein d'autres disciplines qui se sont intégrées à ça. Donc, il y a eu de la danse orientale, il y a eu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu aussi du théâtre. Et en fait, en fonction des lieux, ça s'est développé de manière différente. Et en fait, il y a plein de petites lois des États-Unis. Par exemple, les femmes, ils voulaient fermer les boîtes de striptease. Et du coup, l'idée, c'était que, je ne sais plus dans quel pays, on leur interdisait de montrer les tétons. D'où le fait qu'on fait des caches-tétons qui sont là-bas. Je vais t'en montrer.
Ah oui!
Et donc, du coup, d'où le fait qu'on fait des nippies ou cache-tétons.
Ouais.
Et en fait, les distributeuses ont, au fur et à mesure, détourné. Donc ça, tu vois...
Alors, les cache-tétons, c'est vraiment paillettes.
C'est paillettes, ça se colle.
Ça se colle comment?
Alors, tu peux le coller au double face ou avec de la colle à postiche.
OK, ouais. Comme pour les costumes. Donc,
voilà. Et du coup, plus ou moins, tu as des pompons. Donc, l'idée des pompons, c'est que tu puisses faire tourner.
Ouais.
Là, ça tourne pas. Voilà.
Ouais, c'est dit.
Et du coup, en fait, les stripteaseuses ont fait évoluer la discipline au fur et à mesure avec les lois. Elles ont essayé de toujours détourner les lois. Et c'est là qu'on a vu tout ce qu'on a vu, les costumes se développer et plein d'autres disciplines du burlesque ont évolué. Et par exemple, au départ, les nippies étaient juste faits avec des perles, un tissu couleur chair et une perle pour faire semblant qu'il y avait un téton. Et donc, ils ont fini par remettre une loi. Il faut absolument que ça ne donne pas l'impression que ça soit un téton. Donc, elles ont mis des paillettes, des strass.
Okay.
Et tout s'est développé comme ça au fur et à mesure des lois d'interdiction. Et il y a même eu une loi. C'était, il ne fallait pas que tu montes sur scène. Alors, c'était comment? Moins habillée que ce que tu allais en sortir. Donc, du coup, l'idée, c'est là que le reverse a commencé. C'est qu'en fait, il y a une, Comment ça s'appelle ? Il y a une effeuilleuse du coup qui est montée sur scène nue et qui s'est rhabillée et du coup elle a réussi à faire le show et à être dans les lois. Donc voilà. Donc en fait, il y a plein de choses qui se sont développées. L'idée c'était un peu de on montre qu'on est libre de notre corps et de faire ce qu'on veut. Donc du coup, il y a des lois, ok, mais on va pallier à ça en faisant évoluer la discipline.
Okay.
Donc c'est tout l'idée nous qu'on veut vraiment développer, c'est montrer que c'est choisi, que c'est au moment où on le veut, que si le public il est pas disponible et qu'il nous montre pas qu'il a envie, eh ben on a le droit de pas enlever, on a le droit de, enfin,
okay.
Et tout est consenti entre guillemets. Enfin, même pas qu'entre guillemets, en fait, tout est consenti. Et du coup, c'est vraiment, on reprend le pouvoir sur notre corps. Mmh. C'est nous qui décidons à quel moment on fait les choses et qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on exprime. Et du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est quand même assez fort, quoi. C'est on se met à nu sur scène, mais on se met à nu émotionnellement, avec notre histoire, avec qu'est-ce qu'on veut développer. Alors après, ça peut être un numéro juste très fun, mais ça peut être un numéro très dans l'émotion aussi. Enfin, et c'est aussi pour ça que c'est génial, c'est qu'en fait, sur un spectacle, il y a énormément de numéros. Là, ce soir, on va en avoir 13. Et c'est 13 numéros totalement différents, avec des histoires, avec des artistes. Et du coup, ça nous mène dans plein d'émotions, plein d'univers. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est la diversité des corps et... des corps, des histoires et de tout ce qui va aller avec.
Parce que chacune et chacun décide de s'effeuiller pour raconter ou partager une chose différente.
C'est ça.
C'est pas juste, parce que extérieurement, tu peux avoir l'idée de je me fous à poil et puis voilà. En fait,
oui, mais non, il y a vraiment. Oui, non, mais enfin, ça reste. Il faut quand même dire que ça reste du striptease. Faut pas. C'est ça, mais c'est vu d'une autre manière et c'est pas vu pour faire plaisir aux hommes. C'est du striptease pour nous, pour notre choix, pour le public. Et à côté de ça, il y a une histoire. On tease aussi, on donne envie. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du temps à montrer. Donc on a souvent des très beaux costumes qui ont été mis en 4 heures, qu'on fait,
enfin
4 heures, je dis plutôt 4 mois, strassés, tout ça. Enfin, il y a du, et donc l'idée, c'est vraiment, si on pouvait résumer le déroulement d'un numéro d'effeuillage classique entre guillemets, il y a vraiment toute la partie, on montre, on suggère, on explique un peu l'histoire. Après, on va commencer à teaser avec le public, lui dire que dans ce costume-là, il y a plusieurs couches de costumes et il va se passer des choses. Donc là, c'est souvent le moment où ça va switcher, où au niveau musical ou au niveau éclairage, où il va y avoir quelque chose, un peu de mise en scène qui vont nous exprimer le changement ou l'histoire. Et après, il y a le moment de l'effeuillage et là, les gens ils hurlent, c'est dément et c'est trop bien. Et il y a aussi cette cohésion dans le public qui est assez impressionnant, c'est que du coup on est tous là pour la même chose et c'est hyper fort quoi.
Ouais.
Ouais. Ton lumière c'est tout, tu peux faire et après le son. D'accord, du coup j'envoie le son.
T'auras des gants ou pas ?
Oui. Une question en t'écoutant, le maître ou la maîtresse de cérémonie, si par exemple l'effeuillage ne va pas au bout, est-ce que c'est l'artiste qui dit, est-ce qu'il y a un code pour dire ok je m'arrête là ou je sais pas quoi, ou c'est une sortie de scène simplement ou...
Après chaque artiste gère son numéro, donc du coup il y a aussi des fois où le numéro se termine, enfin il y a aussi des numéros qui sont surtout dansés avec... pas beaucoup d'effeuillage.
Ouais.
Enfin, vu qu'on est dans le milieu cabaret et qu'on est aussi dans une discipline où on a énormément de liberté, il n'y a pas de... entre guillemets, il n'y a aucune règle.
Ouais.
Évidemment, il y a des mouvements qu'on apprend, nous en cours, et des choses qu'on intègre. Mais après, on apprend une base et c'est pour mieux la dépasser et en faire ce qu'on veut. Et du coup, en général, en vrai, ça arrive jamais que la personne finisse pas son numéro parce que, en général, le public est chaud comme une barrique. Mais quelle magnifique expression. Et donc, du coup, mais non, et puis, bah, c'est quand même là, du coup, avec le filage, on va voir aussi les jeux de scène qui vont se mettre en place. Et puis, s'il faut qu'ils arrivent dans le noir, est-ce que, y a des fois, il y a des artistes, ils arrivent pendant que le maître de cérémonie parle aussi. Enfin, il y a plein de jeux de scène possibles, inimaginables. C'est 3 à 6 minutes un numéro. Là, on va avoir une entr'acte. Donc, on va être sur 2 heures de show.
Ouais.
Mais c'est vrai que, bah oui, applaudir, être présent. Et puis en plus, c'est surtout que il y a. Alors, ceux qui ont l'habitude, ils ont le pli, ils savent, ils aiment, comme dans un match d'impro ou comme dans d'autres choses, quoi. Mais les débutants, entre guillemets, ceux qu'on appelle les puceaux du burlesque, et ben il y a toujours le petit moment de. Alors, j'ai le droit, est-ce que je peux y aller? Et puis. Ouais. Voilà, après, après on joue, le public il joue pas, mais en général on y prend vite goût quand même.
Ouais, je veux bien, moi je te suis. Tu fais de moi ce que tu veux. Alors là, on descend dans les loges.
Et on entend le sous-sol de la cité.
Oui, attention. Petit brouhaha qui s'approche.
Bonjour. Je vous présente Agathe de Bonjouir qui va faire une émission, une émission sur le burlesque.
Et
donc, là, c'est nos élèves qui vont monter sur scène.
Ah, trop bien.
Héloïse et Ombenide.
Ok.
Et donc, en fait, on a un numéro, signature de l'équipe des Vilaines. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on passe la cape régulièrement. Voilà, il y a une transmission. Et donc, ce soir, vous reprenez la cape.
C'est ça.
Voilà.
Trop bien.
Je t'éborne.
Non. Ah oui.
Je n'avais pas trop fait.
Alors, quel est ce costume?
C'est le costume de la secte. Okay. C'est le personnage de la secte.
Ouais.
On est trois et on va inviter le public à entrer dans notre secte.
Ok.
En l'encourageant sur plein de choses. Et les paroles encouragent le public à entrer dans la secte parce que tout le monde est accepté. Les blonds, les bruns, les frères, les sœurs. Voilà.
Okay.
Les paroles sont assez drôle, tiens, je peux te montrer les paroles.
Ah, je veux bien, volontiers.
Donc là, on a tout ce qui est notre Corée, mais là, on a les paroles.
Ok,
alors ça fait. Bonjour les apprentis sorciers, rappez beatboxer toute la journée, déjouez la fatalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de couleur, si quotidien rime avec douleur, approchez tous, n'ayez pas peur, entrez dans la secte. Hippo, hippipo, lirigolo, mpipo, li, ami du tempo, si a bilo, pipo, colissa, foligère, solitaire, solitaire. Nouvelle adepte de la secte, afin de l'être, il a dû faire. Que tu sois un gars, que tu sois une meuf, que tu sois peace, que tu sois race, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois athée, que tu sois pieux, que tu sois manchot, que tu sois gaucher, que tu sois blindé ou toujours fauché, que tu sois d'espé ou jamais pressé, que tu sois un flic, que tu sois fait serré, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois dans les temps ou toujours en retard, que tu sois queuse, que tu sois rond, que tu sois chauve, que tu sois blond, que tu sois une caille ou un bobo, que tu sois homo ou encore puceau, que tu sois maniaque ou bordélique, que tu sois toujours sobre ou alcoolique. Et voilà, plein de.
Ok.
Plein d'exemples divers et variés, mais tout le monde peut trouver une place dans la secte.
Ben oui, je vois ça, c'est la seule secte aussi ouverte en fait.
Oui. C'est le moment où tous les artistes viennent derrière nous aussi, donc voilà, ça rassemble un petit peu tout le monde à la fin. C'est le show un peu très festif.
Ok. Et c'est joli, je trouve, que ce soit les élèves, les plus débutants, qui invitent à rentrer dans la secte. C'est vraiment l'idée de la transmission, c'est assez fort, je trouve. C'est cool. C'est un rôle important.
Puis on a bénéficié de toutes
les. Au début, c'était les fondatrices qui avaient Léa, Marine et puis Marie. Qui avait créé cette Corée, qui invitait tout le monde à venir avec elle.
Ouais.
Et là, c'est vrai que la passation, symboliquement, c'est sympa.
Ouais, c'est chouette. Ouais. Bon, bah cool. Alors, tu étais en train de préparer ta cape.
Oui, la cape, les gants. Donc, on enlève les gants, on enlève la cape. Et puis, on enlève un petit peu tout.
Ok. Et oui.
Voilà, petit à petit.
Bon, très bien. Je te laisse te préparer. Je sors de là. Thank you.
veux continuer ?
Je vous présente Agathe, du coup, de Bonjouine.
Bonjour.
C'était bon. Moi aussi, j'avais très envie aussi. Je me suis abstenue, j'avoue.
Normalement, c'est Strass et Paillettes, on s'amuse ici.
Merci.
Alors, dans la vraie vie, je m'appelle Ambroise. Ouais. Mon nom de scène, c'est Marie-Paul Piette. Donc, je fais du burlesque en mode boylesque. Et je suis également drag queen.
Ok.
Donc je joue beaucoup avec ces codes-là. Ça a été compliqué, il m'a fallu un an de construction parce que je voulais faire du drag, mais en même temps j'ai découvert avec Marine et puis Melba qui m'a fait découvrir le burlesque cette autre facette de moi. Et j'avais au départ créé un personnage qui se voulait hybride et ça ne marchait absolument pas parce que je ne le voyais pas en tant qu'homme. Donc je m'étais créé un deuxième personnage qui...
C'est quoi ? Attends, je te coupe, mais un personnage hybride, c'est quoi ?
Un personnage hybride, c'est... On ne sait pas trop s'il est homme, s'il est femme. Okay. Mais en fait, quand je voulais faire du drag, mais vraiment du drag queen,
ouais,
clair, c'est-à-dire que je joue avec le code de la féminité, avec ce que je suis, et de l'autre côté, avec le burlesque, j'ai découvert aussi mon côté masculin, et le fait de jouer aussi, mais avec les codes de la masculinité, mais pas en king, pas en drag king.
Ouais.
Et les deux, en fait, ne collaient pas avec le personnage que je m'étais créé, qui s'appelait à l'époque Marie-Lou Raspberry. Donc là, je l'ai abandonné. Et donc, j'ai recréé un personnage qui s'appelle Marie-Paul Piette, où je peux jouer Paul et Marie-Paul. Et donc, je m'en amuse beaucoup avec celui-là. Et donc, ce soir... et en fait, je me suis rendu compte que quand je fais du burlesque, je souhaite le faire en tant qu'homme. Mais quand je fais du drag, je le fais en tant que femme. Mm-hmm. Mais je fais aussi un peu de défeuillage en drag. C'est là où je joue avec les deux codes, enfin on va dire les deux aspects de cette matière artistique. Voilà.
Et alors l'effeuillage quand on est un homme
C'est globalement la même chose, on joue... Alors j'ai des collègues boylesques qui sont beaucoup plus sportifs que moi, donc moi n'étant pas très sportif et pas forcément très svelte, je joue justement avec ces codes-là des rondeurs, de la maladresse, je m'en amuse beaucoup. Et c'est à peu près les mêmes codes. Alors évidemment, on appuiera un peu moins par rapport aux hanches, par rapport.
Oui.
Je vais un petit peu moins. Voilà,
arrière.
Exactement. Je trouve pas le terme, mais ça viendra.
En fait,
mais en tout cas, ça reste les mêmes codes. Une règle très claire, c'est que on ne montre jamais ses tétons. Donc même en tant qu'homme, même si dans la société, un homme a le droit de se promener torse nu en burlesque ou en boylesque, non. Donc on a de toute façon des nippies.
Et t'as un costume ?
Oui, alors j'ai une chemise blanche que j'ai complètement remontée, qui se dégrafe en fait par les épaules, par l'arrière.
Et oui, d'accord.
Donc qui me permet de l'enlever complètement. J'aurai juste le col que je garderai.
Ouais.
Et en fait, tout se décroche du col avec une cravate. Donc là, on peut jouer comme pour un boa, je vais pouvoir jouer avec la cravate. J'ai le petit gilet.
Ouais.
Et j'ai le pantalon qui se dégrafe de la même façon sur les côtés.
Donc c'est un pantalon que tu as découpé.
C'est un pantalon que j'ai complètement refait. Voilà.
Okay.
Donc, vous voyez, j'ai découpé sur le côté, j'ai mis des pressions, parce que le scratch ça fait du bruit, c'est pas très joli.
Ouais.
Donc là c'est des pressions. Et donc il suffit juste que je l'arrache. Et donc il y a le petit côté striptease,
ouais,
qui est intéressant, puisque finalement du burlesque, c'est le côté très théâtral, et plus sensuel du
ouais,
striptease.
Ouais.
Il y a le côté un peu moins sexuel, mais on réutilise quand même certains codes. Donc les femmes, ça va être beaucoup la pole, bah les hommes, ils vont pouvoir être plus sur le striptease et sur...
Salut
Et sur le retrait de vêtements de façon rapide,
ouais,
on va dire.
Plus rapide.
Voilà. En fait, l'anecdote, c'est que ma mère voulait une machine à coudre, mais n'avait ni le temps ni l'envie d'apprendre à l'utiliser. Donc j'ai lu en fait toute la notice, j'ai appris à utiliser la machine et j'ai appris à ma mère ensuite.
Okay.
Donc comme ça, j'ai appris à coudre. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti, mais avec le burlesque, du coup, je me suis dit, allez hop, on y retourne. Donc j'utilise la machine et puis après, à la main.
Okay. C'est une très belle veste à fleurs aussi.
Et ça, c'est ma veste de fin de scène en fait. Oui, ouais, elle est super. Hormis ce costume-là, mais par exemple, ma culotte, je l'ai faite, elle est où ? Elle est là.
Oui, ta culotte. Ah, waouh !
Rouge. D'accord. Rouge et doré. J'ai mes nippies qui sont rouges et dorés.
Voilà. Donc tes nippies, c'est des cœurs avec...
Alors c'est le logo de l'association.
Ah,
ça
oui,
c'est une obligation aussi dans la Corée de la secte.
Okay.
On a tous les trois des nippies en forme et avec le motif du logo de l'association.
Qu'est-ce qui a été peut-être le plus compliqué pour toi dans l'apprentissage
Eh bien justement, parce que j'ai quasiment 30 ans de scène en tant que comédien, théâtre,
ouais,
traditionnel.
Okay.
Je suis plutôt à l'aise avec mon corps, donc me déshabiller sur scène ne me gênait pas non plus. Par contre, c'était réussir à appréhender mon corps en tant qu'homme et avec les gestes du burlesque. Mm-hmm. En fait, c'est ça qui a été le plus compliqué.
Tout le monde est forcément tout le temps à l'aise.
Non, mais non, mais non, justement, c'est presque thérapeutique, le burlesque. Enfin, c'est même pas presque, c'est thérapeutique. Donc, on en a besoin, moi j'en avais besoin, j'ai eu 40 ans cette année, mais c'était un cap qu'il fallait que je passe, j'avais besoin de ça, je m'en suis rendu compte, justement, en intégrant le burlesque évidemment. Parce que j'avais un besoin inconscient de me réapproprier mon corps et de jouer avec ces codes-là.
Cool, voilà. Bon, je te remercie
pour je t'en prie.
Que tu m'as consacré. Elles sont toutes complètes, nos kittens. Ah ouais, ça fait moins.
Ouais.
On
les kittens.
Ninja. Je vais me mettre là. Alors, tu fais du découpage.
Tout à fait. C'est ça, je découpe des badges.
Des badges, tout à l'heure.
Voilà. Okay.
Mais à part ça.
Et à part ça, je fais des cours de burlesque.
Ok.
J'ai commencé cette année, jeudi soir. Et je vais être la Vierge Marie. Je vais faire une apparition dans le numéro de Lily Égypte. Voilà.
La Vierge.
La Vierge, rien que ça. Ouais, ouais.
Et ça fait combien de temps alors que tu fais du burlesque?
Et ben, c'est depuis le mois de septembre.
Et qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire et à rentrer dans cet univers?
Excusez-moi, où sont les toilettes?
Alors, en haut des escaliers à gauche.
Okay. Très bien, merci.
Qu'est-ce qui m'a motivée? Je pense qu'il y avait un petit challenge pour oser se montrer, je pense. Voilà, c'est un milieu qui m'attirait. Donc il y a un côté thérapeutique, un côté, je pense que j'avais ça en moi depuis longtemps et que j'osais pas. J'ai lancé mon activité comme auto-entrepreneur et j'osais pas trop me montrer, même sur les réseaux sociaux, c'est difficile de prendre sa place. Et en fait, je remarque que depuis que je fais le burlesque, bah, par exemple, j'ai osé faire une vidéo sur Instagram ou ce genre de choses. Enfin, je trouve que ça influe aussi dans la vraie vie.
Dans la confiance en
oui,
soi.
Oui, c'est ça, dans la confiance en soi. Et puis surtout, on s'amuse beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a une belle entraide. Enfin, oui, je trouve que c'est vraiment chouette ce qui se passe pendant ces cours.
Tu fais quoi par ailleurs, toi?
Alors oui, moi je suis herboriste. Okay. Et je suis spécialisée dans la santé gynécologique des femmes. Donc j'accompagne les femmes pour leur santé gynécologique. Et aussi au niveau des émotions. Je suis accompagnante en gynécologie émotionnelle. Voilà.
Alors là, je découvre un univers en plus.
Oui, parce qu'il y a souvent des mots gynécologiques qui sont dus à des traumatismes, etc. Et donc moi, j'aide les personnes à traverser leurs émotions. Ça peut passer par le corps, par la méditation, aussi par l'écriture. Et notamment des fois l'écriture de textes érotiques.
Ouais.
Donc j'en écris. Ça m'a beaucoup aidée sur plein de trucs. Et je propose ça aux personnes que j'accompagne. Et je fais des ateliers d'écriture aussi, érotique.
Très bien.
Aussi, c'est un peu le même but que le burlesque, c'est un côté réconciliation avec soi. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc chouette.
Donc, t'as un site Insta ou un.
Ouais, alors j'ai mon site d'herboriste.
Ouais.
Waouh, ça va faire un coming out des deux, parce que souvent les gens ne savent pas que les deux comptes. Bon, c'est pas grave, allez hop, j'assume. Mon compte d'herboriste accompagnante, c'est le Jardin de Minuit. Et j'ai un autre compte qui est la Plume Érotique. Donc, j'écris des textes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les lire aussi. Donc, j'ai un podcast où je lis mes textes.
C'est très bien.
Et je me demandais, vous prenez quoi comme cours? Alors, comment ça se passe les cours?
C'est le jeudi soir. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a une prof de danse. Ouais. Une prof de défeuillage, enfin, qui vraiment nous explique comment on enlève une jupe, différentes façons d'enlever la jupe, différentes façons d'enlever les gants. La dernière fois, on a dû prendre 45 minutes sur enlever les bas. C'est très compliqué, les bas, le porte-jartel, faire debout, allongé, en faisant la chandelle, en jouant avec. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'aurait même pas imaginé, donc c'est super marrant. Et il y a une prof de théâtre aussi, une fois toutes les trois semaines, hein, pour vraiment l'aspect. Parce qu'on joue un rôle. Il y a ces trois aspects réunis dans le burlesque. Okay. Et souvent, elles sont deux, la prof de danse et la prof des feuillages.
Voilà. Et alors, la construction de son personnage, comment ça... On n'a pas abordé,
c'est un petit peu au feeling. À chaque fois que je viens, j'essaye une tenue différente pour voir un peu quel style je commence à sentir un petit peu. Puis je vois que le costume influe. Il y a des fois, j'ai envie de faire plus humoristique, plus fatale selon la tenue que j'ai mise.
Mais c'est des cours de combien de temps parce que...
Ça dure 2 heures.
Ok.
Ouais, 2 heures. Il y a aussi un truc un peu thérapeutique, c'est-à-dire qu'on commence toujours par un cercle ou avec un peu le mood de chacun, une petite relaxation. Après, il y a vraiment un échauffement, enfin de danse, quoi, un vrai échauffement. Ensuite, on danse, puis on effeuille. Enfin, il y a souvent l'apprentissage d'une chorégraphie. Puis à la fin, il y a des petites parts d'improvisation où on fait deux groupes et puis il y en a qui font le show, les autres qui les encouragent et on inverse. Et on finit souvent par un petit cercle pour déposer les choses. Parce que ça peut remuer des choses de se déshabiller comme ça. Et c'est hyper bienveillant et on s'encourage. Je trouve ça super chouette. Ouais. Ça redonne confiance en l'humanité.
Marie-Babette, t'es là ?
Oui.
Super. Okay. Du coup, ta lumière, c'est ça ?
Je vais pas avoir. Ah, oh, yeah.
Marie-Babette.
Ouais, c'est mon nom de scène.
Ok.
De même.
Et alors, toi, tu passes normalement à quelle heure ?
Alors,
9e.
Ouais.
Ah non, 3e et 9e.
3e et 9e.
Tu as 2 numéros.
Ouais, exactement.
Ok.
Pardon, je vais juste récupérer des affaires.
Et alors, raconte-moi un peu ton personnage, peut-être.
Alors, mon personnage, il a une histoire. En gros, c'est une alien qui a été envoyée sur Terre pour rééquilibrer l'ordre et l'équité et remettre un peu d'ordre dans cette humanité. Voilà. En gros, c'est un peu sa vibe. Et du coup, c'est une chimère qui se camoufle en fonction des endroits où elle va et en fonction de ses émotions du coup, qu'elle a envie de transmettre.
Okay.
Donc, c'est un personnage qui change souvent de visage, mais qui reste dans une démarche. Enfin, je m'oriente essentiellement sur le burlesque, du coup, les feuillages, et sur l'humour, du coup, camp, ce qu'on peut appeler dans le drag, du coup. C'est des choses qui sont très décalées et poussées à l'extrême. Toujours un peu grande dame, quand même. Avec beaucoup d'élégance et toujours une petite distance, une petite froideur aussi. Voilà, elle est souvent comme ça, ouais.
Et ça fait longtemps que tu l'accompagnes ?
Ça fait 2 ans, maintenant.
Et c'est pas mal, ça veut dire que tu peux vraiment prolonger, approfondir ta relation avec elle,
complètement.
Avec ce personnage.
Ouais, complètement, mais en fait, alors ce qui est drôle, c'est que j'ai développé plusieurs personnages, en fait, dans cette même chose, c'est pour ça que je l'identifie comme étant chimère, du coup, c'est vraiment cette transformation et qui reflète différentes personnalités, tout simplement. On va avoir des personnalités qui sont plutôt orientées vers les animaux, donc le chat, le chien, tous ces animaux de compagnie qu'on a un petit peu, c'est assez drôle, et puis ça rend aussi un peu hommage, entre guillemets, à tout ce qui est côté kink de la communauté LGBT, avec tous les furies, etc., que je trouve assez intéressant, psychologiquement parlant, comme chose. Et sinon, oui, il y a des personnages qui vont être plutôt dans la tristesse, qui vont faire référence du coup à tout ce qui est des états dépressifs, d'autres qui vont être plutôt dans l'émotionnel, où on va parler justement des choses qui vont travailler étant plus jeune ou actuellement. Enfin, on se balade. C'est ça qui est chouette, justement, c'est qu'il n'y a aucune barrière et je suis constamment surprise par ce que moi-même j'arrive à sortir à certains moments. C'est très agréable du coup.
Ouais, c'est bien de réussir à pouvoir se surprendre.
Ouais, complètement.
C'est assez même peut-être rare au quotidien où on est quand même assez contrainte, drivée. Là,
ouais.
C'est un vrai espace de. On peut aller un peu plus loin.
Complètement, ouais, complètement. Et puis en rencontrant d'autres artistes, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de venir. Prendre en quelque sorte, parce qu'on s'inspire de maquillage d'autres personnes par exemple, et ça vient créer une autre personnalité chez nous. Et c'est intéressant parce qu'on s'inspire de certaines façons d'être d'autres qui viennent combler certains manques qu'on peut avoir chez nous pour réussir à faire ce qu'on veut faire sur scène. C'est que, comme tu le dis si bien, on est très cadré, on se connaît, on sort très peu de notre zone de confort, et en fait, grâce à cet art, bah, je peux le faire, c'est très agréable.
Donc là, tu te préparais, j'entendais...
Le rasoir.
Ton rasoir. Et oui.
Ouais, ouais, bah ouais, pour avoir l'illusion, entre guillemets, tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais moi, je sais que j'aime pas ma pilosité, donc voilà, je les retire à chaque fois.
Okay.
C'est la partie la plus désagréable, on va dire, entre guillemets, de la chose.
Et je vois tes chaussures.
Oui.
Magnifique talon noir.
Merci, bah, c'est des classiques, hein. Petits escarpins noirs, 6 mm.
Ouais, mais avec une bonne hauteur de talon quand même.
Toujours, toujours. Ouais,
je pense, ça m'impressionne, ouais. Ça quand même.
Ouais, j'aime bien la ligne et les jambes que ça fait, surtout. Je trouve ça assez intéressant. Mais c'est vrai que je porte souvent des hauts talons. Minimum, ouais, minimum 8, voire 12.
Ok, bravo. Ça force le respect, je trouve.
Je pense que ça va être une belle journée.
Bah, je te souhaite un bon.
Merci.
Beaucoup de plaisir.
Amuse-toi bien.
L'amour se cache dans le cœur comme un voleur et secrètement organise son malheur comme un ver dans une cerise au souvenir de son bonheur. La 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 la.
Tu t'ennuies, cher Seigneur.
Moi, je ne m'ennuie jamais, la route. Comment s'ennuyer dans un monde où il y a tant à faire, à découvrir, à comprendre.
Tu chantais l'amour, le cherches-tu?
Évidemment, je le cherche, comme tout le monde.
Alors continue ton chemin. C'est une question de confiance.
Merci, Larousse.
Adoré. Drag king et performeur burlesque.
Alors, drag king.
Drag king.
Ah, pardon.
Oui.
Vous êtes drag king, alors on n'est pas dans un truc de hacker, c'est chelou.
Drag, le système patriarcat.
Tu disais que tu étais expert de quoi? J'entendais vaguement.
Oui, forcément, c'est quand j'ai fait mes études. Je fais un master recherche histoire de l'art médiéval. Mmh. Et je travaillais sur les sceaux pour sceller les. Qui ne scellaient pas d'ailleurs, hein, qui étaient juste pendus à l'acte. Et du coup, je travaillais sur les pierres taillées antiques conservées de matrices de sceaux au Moyen-Âge. Voilà.
Ok, très bien. Donc ça, c'était super.
Oui.
Et maintenant, c'est autre chose, quoi.
Oui.
On taille autre chose.
On taille autre chose. Mais après, j'avais déjà commencé le drag pendant mes études. Et puis là, dernièrement, j'ai la chance de commencer à en vivre. Donc,
trop bien. Ouais. Alors, comment ça se passe pour en vivre? Ça veut dire faire des shows
Par exemple, on en rigolait hier avec Marie-Babette. C'est juste qu'on fait tout le temps ça. Et il y a Marie-Babette qui quand même fait 4 dates en 2 jours.
Ouais, ok.
Et pareil, moi, avant-hier, j'ai organisé une soirée dans un bar à Nantes. Pour en vivre, ouais, faut produire beaucoup, faut tout le temps se renouveler, faut être vraiment au fait de la réalité, d'organiser des soirées, de développer son réseau, d'être mobile et tout. J'ai commencé avec un personnage drag queen, et c'était Elena Ladorée.
Ouais.
Et après, j'ai inventé un frère, donc Edmond Ladorée, qui dans la narration a fait disparaître sa sœur.
Okay.
Et maintenant, Edmond Ladoré a pris le lead de la famille. Et Elena a disparu au printemps dernier. Et du coup, ce personnage d'Edmond, je le chéris beaucoup. Il est né dans la rue. Un jour, on m'a dit que j'étais un gros PD. Et personne n'avait réagi. C'était une énorme terrasse et tout.
Ouais.
Et je me suis dit, quitte à être ça, autant l'être sur scène de manière totale. Et c'est comme ça qu'il est né. Et après, dans mes numéros, il y a toujours un lien avec la culture, ce qu'on peut appeler la culture gay des années 70-80 et par extension la culture queer et militante. Il y a toujours une note. J'ai un numéro en cow-boy. Et j'ai un numéro en policier aussi, un marin. Et c'est toujours des figures très masculines, mais c'est comme si Edmond voulait absolument coller à ça, mais il ne le sera jamais parce qu'il est très efféminé. Voilà. Et ce soir, je fais un numéro Podane.
Enfin, c'est toi qui fais Podane.
Ouais, qui s'est inspiré de Podane. C'est commence avec une réplique de La Rose qui parle au prince. Et en fait, c'était un peu aussi pour parler du rapport à l'intime. Ce que La Rose dit, demande au prince si. Il cherche l'amour et elle lui dit continue, c'est une histoire de confiance et c'est aussi pour parler de ce que c'est le rapport au corps et à la vie intime quand on est homo, quand on est gay ou quand on est surtout et particulièrement queer et qu'on rentre pas dans les schémas que ce soit anatomique ou physique de la norme. Et c'était pour parler de ça. Podane, c'est qu'il y a beaucoup de rapports à l'enfance hein, dans mon travail. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Et se le réapproprier parce que Podane, quand son père veut se marier avec elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache derrière des apparats et des robes. Ouais. Et à contrario, elle se fout une Podane sur elle pour disparaître. Et ça parle aussi de ça, cette volonté de se cacher derrière un milliard de trucs.
Ouais,
voilà.
Pour pouvoir exister.
Oui.
Quand même.
Voilà.
Super, merci.
Oui,
c'est
avec grand plaisir.
Ta démarche. On peut te suivre sur des réseaux,
oui,
j'imagine.
Oui, on peut me suivre sur Instagram, donc Edmond Ladorée. Et sur TikTok, malgré mon grand âge, pareil, Edmond Ladorée.
Ouais.
Et voilà.
Eh ben super, merci.
Oui, avec grand plaisir.
Un spectacle.
Merci.
Est-ce qu'on a Divine?
Divine, tu es là? Divine était en train de décoiffer.
Donc, alors, quand tu commences à être un effeuilleur et effeuilleuse un peu côté, t'aimes bien avoir ton nom derrière et tout.
Ouais,
on fait ça super bien. Mais du coup, on a tous nos petits peignoirs
très bien.
D'avant-scène. Tu vois.
Très bien.
On pratique souvent le RFEH parce que des fois c'est un peu longuil de remettre toutes les couches pour enlever.
Ouais.
Donc des fois, même en cours, on enlève une fois les gants et après on fait semblant d'enlever les gants.
Donc prochaine scène au Marquis de Sade le 20 janvier. Donc ça sera à la nouvelle année. Alors on en a une le 30 mars aussi au Marquis de Sade. Et du coup, un nouveau grand cabaret des vilaines. Au Marquis de Sade, c'est le cabaret des petites vilaines.
Et
là,
oui,
on est sur le cabaret des vilaines.
Ouais.
Et du coup, le prochain, ça sera le 25 mai.
Ici, à la Cité.
Ici, à la Cité.
Très bien. Mais merci beaucoup, voilà. Marine, pour cet accueil. Et puis, moi, je me dis, c'est assez chouette le calendrier. Aujourd'hui, c'est quand même une journée où là, bientôt, il y a un cortège qui va partir manifester contre les violences faites aux femmes et tout ça.
Oui,
et du coup, je me dis, c'est chouette ce hasard de programmation, finalement. De pouvoir aussi être dans un espace où la liberté et d'expression et corporelle, ouais, etc., est vraiment revendiquée.
On a plusieurs manières de se battre, et nous, on le fait avec des paillettes et en spectacle, mais le message est à peu près le même, en général. Ouais, donc, ça. Du coup, c'est vrai que c'est chacun sa technique, mais c'est aussi l'idée, les feuillages.
Ben oui. Sur Canal B. Il est maintenant temps de retrouver la deuxième partie de la librairie Foutraque de Benjamin Bechler, avec toujours un extrait de Mangez-moi d'Agnès de Sarthe, publié au Point. Et oui, un autre voyage après celui que nous venons d'achever ensemble. Ça vous permet une petite redescente, un petit peu tranquille ou quoi. Oh.
À quel genre de film suis-je retenu ? On croit toujours qu'il y a un fil, jusqu'au jour où l'on rencontre le vrai bon magicien, le vrai bon acrobate. Parfois il n'y a pas de truc, parfois c'est seulement une question d'entraînement. Il faut croire que j'avais un bon entraînement à survivre. Oui, c'est ça, c'est mon savoir-faire, ou bien c'est un don. Ce n'est pas seulement que je m'adapte facilement, c'est que m'adapter m'exalte. Cela remonte-t-il à la petite enfance ? Quel docteur, quelle diseuse de bonne aventure pourrait me le confirmer ? Par exemple, là, cet évier, en m'y plongeant. Je ne songe pas à l'absence de baignoire, je me félicite plutôt du robinet télescopique et du beau mot de douche que le fabricant facétieux a eu l'idée d'y ajouter. Je ne pense pas à porcelaine. Ah, une bonne baignoire en porcelaine. Je ne sais d'ailleurs pas s'il s'agit de porcelaine ou de faïence, ce matériau lourd et lisse qui évoque le lait non pasteurisé d'un blanc si émouvant. Non, je ne regrette pas la matière noble. Je constate plutôt la versatilité de l'inox, solide et léger, creux et indéformable, ni chaud, ni froid par nature, mais successivement chaud ou froid selon la température de la matière avec laquelle il entre en contact. Comme en écho à mon propre système de régulation thermique, froide avec les froids, chaude avec les chauds, pas de nuance, pas d'équilibre, rien que de l'adhésion. C'est ce que certains appelleraient de la souplesse, cette même souplesse qui me permet, dans un évier de 50 cm de côté, de prendre un bain à l'aise. Il m'arrive d'échafauder des rêveries complexes sur ce thème. Je me retrouve sur une île déserte. Je suis abandonné au sommet d'un glacier. Je suis coincé dans une grotte à plusieurs centaines de mètres sous terre. Le plus troublant, c'est que ces évocations cauchemardesques ne suscitent pas la moindre angoisse en moi. Au contraire, les scénarios catastrophes dont je suis l'héroïne m'aident à conquérir les centimètres de banalité qu'il me faut parcourir chaque jour. Vivre tout bêtement, voilà qui est difficile. Hors du tourbillon, hors de la menace, contempler avec calme le tableau en liège sur lequel sont affichées les factures et se dire qu'on va les honorer à 90 jours, et que si l'argent manque, on investira celui qu'on n'a pas en frôlant la faillite. Comme un surfeur dans le tuyau d'une vague géante. Sauf que lui risque la mort, alors que moi, je ne risque rien. Au pire, la dépossession, l'échec, l'appauvrissement extrême, et bien que ces spectres soient terrifiants, bien que je sache leur amertume pour les avoir côtoyés d'assez près, ils ne sont rien en regard de la mort. Alors oui, c'est ça ce que je dois faire, chaque jour. Avancer sur la route plate qui mène au lendemain, me lever, tôt, très tôt, faire les courses, nettoyer, découper, réfléchir, chauffer, frire, déglacer, étuver, compter, servir, recompter, nettoyer de nouveau, jeter, récupérer, récurer, éplucher encore, presser, émonder, émietter, pétrir. La nuit venue, dans l'eau de mon bain, je fais le compte. Et le récit de mes gestes diurnes. Et la somme de tout cela n'est rien, et pourtant elle est tout. J'essaye de définir ma raison de vivre. Informulable et fugace, c'est un noyau de joie pure, jamais atteint et lié, sans que je sache comment, à l'émoi de la peau. Je sors de mon évier, je m'essuie soigneusement et m'enduis d'une huile que je n'utilise pas pour cuisiner, parce que certaines limites subsistent encore, malgré tout, pour moi. Le fleuriste arrive, armé de son premier bouquet de récupération. « Je n'ouvre qu'à 11 heures, me dit-il. Il a donc le temps de boire un café. C'est ainsi que je décode l'information qu'il vient de me fournir et qui autrement manquerait d'à propos. « Je vous sers un café ?»« Si vous voulez, » répond-il, comme si c'était à moi que ça faisait plaisir. Il s'assied sur la banquette en moleskine pour dame, tandis que je me glisse derrière le comptoir afin d'échapper à son haleine. J'adore mon percolateur. Le mot n'est pas trop fort, je l'adore vraiment, comme on adore une idole. Il se dresse, étincelant, avec ses manettes et ses boutons, ses tuyaux, ses grilles, tel le tableau de bord d'un jet privé. Je n'en reviens pas de ce luxe. Mon percolateur est de la marque Hirschmüller, une filiale allemande du fabricant d'origine. La maison Kruger, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, en Suisse. Je suis devenu très calé en appareillage de cuisine grâce à mon nouvel ami, le marchand de l'avenue de la République. C'était un modèle ancien, mais presque neuf, pour lequel il m'a consenti un crédit inouï, un crédit qui pourrait me faire penser qu'il est amoureux de moi, si je n'étais pas plus lucide. Ce qu'il apprécie, c'est surtout l'usage que je fais de ces machines. « Et c'est un premier pas, » me dis-je, en enclenchant la cassolette dans la culasse. « Je l'aime serré, » précise le fleuriste, « si ça ne vous dérange pas. » Je suis tenté de lui offrir en prime des grains de café qu'il croquerait pour purifier ses exhalaisons. « Pas de problème, » lui dis-je, « je suis comme vous. »
Et c'est ainsi que s'achève Bon Jouir pour ce soir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie de l'association Burlesque et Vilaine. Je les remercie très sincèrement pour avoir partagé avec nous leur univers et nous avoir accueillis ainsi ce samedi après-midi. Bon, on se retrouve dimanche prochain à 23h. D'ici là, passez une cypriennement belle semaine sur Canal B.